part de moyens que le Seigneur a mis à notre disposition aujourd'hui. Vous savez que le monde, n'est-ce pas, est devenu comme un village. Et c'est d'ailleurs un village maintenant. Parce que des choses qui se passent au loin, dans quelques minutes, nous les avons. Hier, une soeur nous annonçait d'abord d'aller Moloto. Mais si j'avais ouvert mon ordinateur, je vous aurais déjà informé cela. Voilà. C'est pour dire que le monde est un village. C'est une réalité d'ailleurs, à ceux qui ont dit ça, que notre frère Moloto est rentré auprès du Seigneur. C'est une vérité. Il est retourné à la maison du Père. Et je disais que je voulais remercier, n'est-ce pas, le responsable de FUMES, les comités efficaces qui rendent les services au Seigneur, parce que ce qu'ils font, ce n'est pas pour eux, c'est pour le Seigneur. Je vois cette efficacité-là, même dans l'intercession qui se fait, n'est-ce pas, régulièrement. Chacun est fidèle à son poste. Celui qui fait la méditation pour l'Europe est toujours fidèle à son poste. Celui qui s'occupe d'intendance, il fait d'une manière excellente son boulot. Et chaque personne, quand on veut parler, vous sentez que non, ça c'est pas moi, c'est celui-là. Peut-être que j'ai l'habitude de parler avec Célestin, mais vous sentez que c'est pas lui. Il vous dit, c'est elle qui fait ça. Donc, je vois là, n'est-ce pas, un organisme qui a de l'avenir. L'avenir, parce que on se donne des mains d'association pour aller de l'avant, pour travailler pour Dieu. Cela montre qu'on n'est pas seul. On n'est pas comme Robinson Crusoe sur une île. Mais on veut travailler ensemble, dans la communion. C'est pourquoi il y a même des blagues quand j'entends les États-Unis, le Canada, qui se disputent la primauté ou l'hégémonie. Je peux comprendre, parce qu'on voit que les gens veulent que des choses soient bien faites.
Amen.
Donc nous rendons grâce à Dieu. Mais vous voyez que j'ai dit aussi merci aux membres de FUMES parce qu'ils me donnent l'occasion de venir jusqu'ici chez vous. Et j'avais dit à quelqu'un en chemin que j'avais quelque chose à dire, mais je le dirai à tout le monde. C'est Richard qui est venu me chercher. Mais je ne le vois pas. Il est sorti. Oh, ben voilà, il va rater alors. Parce que je lui avais dit ça. Je lui avais dit que, parce que je lui avais dit que je dirais ça à tout le monde. Le 26 septembre 1979, après avoir prié Dieu, je partais quelque part, je disais à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un diplôme d'université, parce que j'avais déjà l'appel, on me le disait, mais j'ai dit, je ne veux pas servir Dieu sans diplôme d'université, parce que des gens croiront que servir Dieu, c'était facile. Quand on a échoué ailleurs, on peut alors aller servir Dieu. Voilà un peu ce que j'avais comme vision. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes le diplôme d'université, tu vois mes souffrances, tu vois comment des gens me cherchent de l'oise, même là où j'ai réussi, on va me donner 8. J'ai fait la réclamation, le décanat, donc le doyen, cherche le papier, on trouve que je n'avais pas 8. Mais j'avais 16, on m'a donné 8. Vous voyez un peu? Mais j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes un diplôme d'université, je vais te servir. Alors, c'était comme une condition. Si tu ne me donnes pas, alors vous voyez. Mais pourtant, le Seigneur, j'avais un appel pressant. Je devais aller servir Dieu. Mais Dieu est fidèle, vous savez. Dieu nous prend au mot. Dieu m'a donné le diplôme. Mais j'avais commencé à dire, mais écoute, j'ai des diplômes, je peux servir. Avec un de mes amis qui est retourné auprès du Seigneur, on a dit, nous pouvons faire une association pour soutenir les serviteurs de Dieu. moi j'étais en train de partir. Oui. Mais Dieu me dit, non, c'est pas toi que j'ai choisi pour soutenir les serviteurs de Dieu. Oui. C'est pas toi qui peux les soutenir. Oui. Si moi je veux les soutenir. Mais moi j'ai besoin de toi. C'est toi que je veux. J'ai rendu des armes. Oui. Mais parmi les choses, comme j'avais dit à Richard, je vais dire la chose là et qu'il est là. Mmh. J'avais aussi le 26 septembre 1979, j'avais aussi dit à Dieu, Seigneur, si tu permets que je termine et que j'ai le diplôme d'université, je vais te servir. Mais je te demande aussi de me permettre de visiter ce pays. J'ai mis une liste de pays là et j'ai oublié. Mais heureusement, mon papier est perdu, mais j'avais photocopié. J'ai la photocopie jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, je vous dis, là, c'est authentique. J'ai dit, j'ai énuméré un certain nombre de pays. Et j'ai vu le Seigneur réaliser tout cela. Vous voyez un peu? Et même ce que je n'avais pas demandé, il a permis que je fasse ça. Et vous savez, je suis venu à maintes reprises au Canada, où j'ai de la famille, n'est-ce pas, à maintes reprises. Et j'ai même un jour organisé avec quelqu'un pour qu'on vienne jusqu'à à Maine ou Vermont en voiture. Ça capotait. Mais pourtant, c'était bien arrangé, tout. Et puis on devait venir. Mais ça capotait en dernière minute. Oui. Alors, un jour même, j'ai dit, mais je prends la voiture, je veux aller, j'ai le permis, je vais louer la voiture, je veux aller. Mais arrivé ce jour-là, j'ai eu d'autres choses. Mais voilà, je voulais dire que le FIMES a prié pour que je vienne, et j'ai vu que l'âge de Perse ne voulait pas.
Oui.
Mais il n'a pas eu la victoire.
Amen.
Et je suis là. Je bénis Dieu. J'ai dit ça, ce petit témoignage, pour montrer la fidélité de Dieu.
Amen.
Dieu est fidèle.
Amen.
Il y a d'autres choses que je pouvais énumérer aussi. Mais d'autres, je les énumérerai aussi dans les enseignements. Vous pourrez les découvrir aussi dans d'autres enseignements que nous ferons. Alors, voilà, j'ai remercié les FIMES. C'est pour dire que le thème qu'on a choisi, que l'amour inspire toutes vos actions, est un thème qui m'a marqué pendant toute cette année. Depuis que je l'avais eu, je crois, au mois de novembre, il a rythmé toute ma vie. Que l'amour inspire toutes vos actions. On voulait venir avec ma femme, elle n'est pas là, mais elle m'entendra peut-être. Je lui avais dit, j'ai mis même des choses ici. Et il m'avait dit, enlève ça. Je ne l'ai pas enlevé. Parce que j'ai dit, oui, je ne l'ai pas enlevé parce que je pensais que ça pouvait aussi nous aider à comprendre que notre Dieu est le Dieu d'amour, le Dieu puissant. Que l'amour inspire toutes nos actions. Ce que je voulais dire, c'est que, et j'avais dit dans ce texte, quand je fais des visites pastorales, quand je vais visiter des gens, quand je prêche, quand j'exhorte quelqu'un, qu'est-ce qui me motive? Est-ce que je le fais parce que je suis pasteur ou bien je le fais par amour? Et c'est la question que j'avais, que je voulais peut-être que, en disant ça, vous pouviez parler avec ma femme en aparté, mais comme les Français disent, mais elle n'est pas là. Et j'ai dans ma charge, ma cahier de charge, ma description de job, comme vous dites, n'est-ce pas? J'ai la responsabilité d'aller visiter des vieillards, des gens qui sont dans les hommes, dans la ville où je vis. Quand je pars voir ces gens, je me suis posé la question, est-ce que je le fais par amour ou je le fais parce que dans ma description du job, on me dit que vous avez aussi la responsabilité d'aller voir le malade. Vous comprenez un peu notre thème? Que l'amour inspire quoi? toutes vos actions. Est-ce que quand je fais ces choses, est-ce que je le fais par amour ou par devoir? Je suis pasteur. Quand je prêche le dimanche, est-ce que je le fais par amour ou par devoir tout simplement? Et j'ai demandé, j'ai posé la question à ma femme, sans qu'elle le sache, mais elle a lu ce que j'avais écrit sur l'ordinateur. Alors, j'ai dit, elle m'a dit, il y a des choses que tu fais par devoir. Mais il y a des choses, je vois que j'ai besoin de micro, d'autres micros aussi. Parce que tu vois, j'ai aussi tendance à me déplacer. Parce que l'image, vous savez, les pasteurs est tenu à être là, et puis ils communiquent les kérigmes, que les gens entendent le message, et puis qu'ils ne soient pas distraits par les déplacements, par ceci, ils connaissent. On demande qu'ils soient là, qu'ils se mettent, qu'ils connaissent les pasteurs. Qu'ils soient là, qu'ils parlent avec tous les sérieux, qu'ils n'aillent pas ici, à droite, à gauche, c'est de suite. Mais dans peu de temps qu'il communique la substance importante du message. Comme on est là, nous sommes ensemble, nous avons la liberté aussi, par l'esprit, que nous donne l'esprit, de nous déplacer.
Amen.
Amen. Ok. Donc je disais à ma femme, est-ce par devoir ou par amour que je fais ça? Vous avez compris, n'est-ce pas? Sa réponse, il y a des choses que je fais par amour de Dieu. Mais il y a d'autres choses que je fais par devoir. Mais en le faisant par devoir aussi, n'est-ce pas, cela permet toujours à ce que la parole de Dieu se répande. Vous avez compris, hein? Donc, à nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des moments où nous ne faisons pas des choses par amour de Dieu. Où nous faisons des choses d'une manière toujours mécanique parfois. D'autres personnes diront, mais ça fait partie de notre vie intégrale. C'est vrai en tant que chrétien, c'est vrai. Mais il y a aussi des choses que je peux faire pour que l'on dise que ce n'est pas sincère. N'est-ce pas? Comme aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses parce qu'il faut qu'ils soient vus. Ministère, ils ont des ministères, on dit ministère international. Mais il n'a pas encore quitté la ville de Halle. Et la ville de où nous avons été carrés. Pierre n'est pas encore la terre, mais il est déjà international. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a des choses que l'on fait pour les matures vues. Mais nous avons choisi ce thème, nos responsables de fumée ont choisi ce thème. Que l'amour inspire toutes nos actions pour que nous ne puissions pas paraître. Mais que nous puissions être. Parce que paraître fait que les gens nous voient. Fait que nous puissions faire des choses par le « as-tu vu ? » As-tu vu ce que je fais ? As-tu vu ce que notre église fait ? As-tu vu ce que notre famille fait ? As-tu vu ce que notre communauté fait ? As-tu vu? Non, c'est pas ça. Dieu ne veut pas de « as-tu vu ?» Dieu veut que nous soyons.
Amen, amen.
Parce que sa parole dit, n'est-ce pas, qu'il n'est pas un homme pour mentir, mais un fils d'homme pour se repentir. Et sa parole dit encore, il sonde le cœur et le rein. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Il n'y a pas de choses qui nous sont cachées. Même des choses que nous avons faites en secret, nous avons dit que ça, que personne ne sache. Lui, même s'il ne le permet pas que nous connaissions, mais lui connaît. Et son Esprit Saint te dit, tu vois ce que tu as fait. Et toi-même, tu connais. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions paraître. Mais que nous puissions vraiment être.
Amen.
C'est ce que j'entends sous ce thème, que l'amour inspire toutes vos actions. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, vous comprenez, j'ai fait un petit contexte, je crois peut-être que le pasteur avait déjà fait ça. Ok, merci. Quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, c'était une grande ville, une ville portuaire, comme nous sommes. Nous sommes. Ça ne fait pas partie du côté est, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Ça fait partie du côté est. Vous avez aussi des ports, je crois.
Oui, oui.
J'ai vu quand même un bateau quelque part quand j'étais dans le véhicule, là, on était dans l'avion, on était en train d'atterrir quelque part. J'ai vu qu'il y avait des bateaux. Bon, voilà. Vous connaissez? Donc, c'est une ville. Une ville, Paul écrit, il était dans une ville où il y avait des ports et beaucoup de commerce. Je ne sais pas si Raleigh a beaucoup de commerce aussi. Les États-Unis ont beaucoup de commerce, le Canada aussi. Je ne veux pas contenter l'un et froisser l'autre. Je voudrais dire, comme on dit dans ma langue, qu'il faut wasenga kanku wasenga chibwawa.
Amen.
C'est-à-dire, il faut, si tu as des jumeaux, n'est-ce pas, tu ne peux pas seulement féliciter un. Il faut essayer de féliciter les deux. C'est ce que je comprends ici. Parce que tous les deux sont vos enfants. Et je comprends que les États-Unis et le Canada sont tous
des jumeaux.
Alors il faut les encourager. Et ce qu'ils font, si se titillent un peu ou se chatouillent un peu entre eux, c'est parce qu'ils veulent que les choses marchent.
Voilà.
Alors j'aimerais vous encourager.
Amen.
Donc vous voyez ici qu'il faut que nous puissions vraiment prendre la mesure de ce que nous faisons. Comment nous le faisons? Mais ce que j'étais en train de dire, c'est le port, le commerce, la richesse. Donc l'apôtre Paul enseigne à Corinthe dans une église, ou écrit aux Corinthiens dans une église qui est riche, où il y a une ville cosmopolite comme Raleigh. N'est-ce pas, vous voyez, et c'est pas seulement à une ville, c'est pas seulement à une ethnie qu'il écrit. Les Corinthiens avaient plusieurs personnes à Corinthe. Mais ici, on dit Corinthe, Corinthien. Mais vous savez, quand il écrit dans cette ville qui est riche, avec beaucoup de richesses, il a l'intention que ces gens puissent marcher selon Dieu.
Amen.
Pourquoi? Si vous regardez dans le contexte, quand il écrit, dans cette ville, il y avait une église qui était prospère, une église charismatique, une église riche aussi en quelque sorte, riche de dons spirituels. C'est là où il parle de dons. Mais voilà, malgré la richesse de dons spirituels, malgré la richesse aussi que l'on pouvait avoir matérielle, l'apôtre constate que à Corinthe, il y a quand même une médiocrité. Parce que il y a même un homme qui va avec sa belle-mère ou sa marâtre, ce qu'on appelle l'inceste, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul dit, mais écoutez, il ne faut pas que de telles choses se fassent au milieu de vous. Et tout cela pour montrer qu'il faut que l'amour soit au-dessus, que l'amour soit au centre. Et ici, j'aimerais dire que cette épître aussi, c'est une des premières lettres que nous avons, vous savez, une des premières écrites du Nouveau Testament. Si vous cherchez un livre qui est apparu en premier, ne croyez pas que ce soit les quatre évangiles. Non, c'est plutôt la lettre ici, et suivi des Thessaloniciens. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez quand l'apôtre Pierre va écrire pour... Il dit, mais notre frère Paul écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. Vous comprenez ça? C'est parce que c'est une lettre qui est apparue avant même les évangiles. Bien entendu, vous avez dit, mais pasteur, comment vous nous dites ça? Dans l'ordre d'apparition, ce ne sont pas nos évangiles qui sont apparus le premier, c'est plutôt l'épître. Alors, nous laissons ça aux académiciens, aux théologiens de théologiser. Mais nous revenons à l'essentiel pour dire que Paul parle de l'amour qui doit être au centre de tout, au centre de la vie, au centre de la ville, au centre de la personne. L'amour doit être au centre. Mais quand nous parlons d'amour, qu'est-ce que nous entendons par amour? Est-ce l'amour qui est chanté par les musiciens? Parce que je ne connais pas des musiciens des Raleigh, mais je connais une musicienne du Canada. Est-ce que c'est l'amour qui est chanté par Céline Dion? Est-ce que c'est l'amour qui est chanté par Johnny Hallyday? Est-ce que c'est l'amour qui est chanté par je ne sais pas qui encore? Non, il ne s'agit pas de cet amour-là. Comme vous l'avez déjà entendu, on voit que dans la Bible, lorsqu'on parle de l'amour, mon frère vous a déjà parlé de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? On voit que c'est l'action de Dieu envers les hommes. C'est que Dieu fait envers les hommes. Et je ne vais pas entrer dans les détails. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a deux mots qui sont appropriés pour amour. Quand on parle de l'amour de Dieu vers les hommes, on n'utilise pas, n'est-ce pas, d'autres mots. L'amour de Dieu pour les hommes, il est utilisé comme bonté, comme bienveillance, comme charité, non pas comme charité, bienveillance, n'est-ce pas? Il y a un mot en hébreu là qu'on appelle Hesed, qui traduit l'amour que Dieu a envers ses hommes, ses enfants, sa création. Donc il traduit l'amour, n'est-ce pas, qui est rendu par la bonté, qui est rendu par la bienveillance. C'est la raison pour laquelle vous avez, par exemple, la bienveillance de Dieu, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu n'est pas arrivée à son terme. Il se renouvelle chaque matin, Lamentation 3, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est pour parler de l'amour, n'est-ce pas, de Dieu envers les hommes. La bonté que Dieu a envers nous. Et cela étant dit, vous pouvez voir que si vous lisez les cantiques des cantiques, le mot qui est utilisé pour l'amour, quand vous lisez en hébreu, ce n'est pas l'amour et celle que Dieu a envers les hommes, mais c'est l'amour plutôt d'un homme envers une femme. Ce qu'on voit sur nos écrans, vous pouvez être avec vos enfants, pouf, vous voyez, il y a des choses, des images qui passent, érotiques, éros. Ce n'est pas cela. Ce qui est érotique, éros, va avec ce qu'on appelle pornographie, porneia, ce qui est inconduite, ce qui n'est pas un vrai amour. Ce n'est pas de cet amour-là dont nous parlons, ou dont mon frère a parlé déjà. Mais il s'agit plutôt. Donc, l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, ont des mots appropriés pour parler de l'amour de Dieu.
Amen.
Dans le Nouveau Testament, il y a deux mots qui peuvent être utilisés pour Dieu. Il y a, mon frère peut mieux parler de cela, parce que c'est néo-testamentaire. Donc, il y a le philia et agapé, agapao. Donc, l'amour désintéressé et l'amitié. Le philia, c'est, on peut rendre pas l'amour ou l'amitié. Donc, on trouve, dans la Bible, on trouve aussi Dieu qui nous prend comme ses amis. Surtout Jésus-Christ, quand il parle, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes des amis. Vous voyez un peu ça? Dieu qui fait de nous ses amis. Nous devenons des amis de Dieu. Là, c'est quand même surprenant. Donc, on voit que dans l'amour agapé dans la Bible, là, c'est Dieu qui se fait, c'est le don. C'est Dieu qui se fait, Dieu fait don. Donc, voilà un peu l'amour dont nous sommes en train de parler. Mais ici, comme nous sommes en train de parler de cet amour-là, il y a aussi un aspect important, c'est que l'amour inspire toutes vos actions. C'est là que nous pouvons nous poser, quelles sont les actions qui sont concernées par l'amour? Donc, dans vos dit notre thème, l'amour motive toutes vos actions ou l'amour inspire toutes vos actions. Donc moi j'ai noté inspiré, motivé, c'est la même chose aussi. Mais j'ai plutôt appuyé sur inspiré. Donc que l'amour inspire toutes vos actions. Donc vous voyez un peu que ce livre que nous avons lu, que vous connaissez, le livre de Paul aux Corinthiens, comme je viens de dire, c'est un chant d'amour. Si vous regardez, il culmine dans le chant d'amour dans le chapitre 13. 12, 13, 14. Donc c'est le chant d'amour. Et puis il y a même des gens qui disent, mais vous voyez, Paul parle avant de dons, il parle, après il parle encore de dons, mais au milieu, excusez-moi, mais au milieu, merci, mais au milieu, il y a l'amour. Vous voyez un peu. Donc c'est l'amour, et l'épître termine aussi sur la note de l'amour. Donc on peut dire, l'apôtre écrit pour que nous comprenions qu'est-ce que l'amour. L'amour, est-ce que seulement ma relation intime avec mon épouse? Nous verrons cela ailleurs. Mais ici, on parle vraiment de l'amour. Moi, je vais parler d'amour, de l'amour de l'homme vers pour Dieu. Vous avez compris que mon frère a déjà parlé de l'amour, n'est-ce pas, de Dieu envers l'homme. Alors, comme il a déjà parlé de cela, il va faciliter donc la tâche. Nous pouvons voir, comme vous êtes des lecteurs, je vais lire avec vous la Bible. Et parfois, je vais vous interroger pour que nous puissions vraiment comprendre notre message. Donc je vous commence donc, après avoir fait tout ce parcours, je crois que je vous ai restitué un peu dans l'amour, et vous avez compris l'amour que dont notre frère vous a parlé, même de l'amour pour nos ennemis. Alors on va comprendre aussi d'autres choses aujourd'hui. Nous allons commencer donc pour dire que l'amour inspire toutes nos actions, mais je parle de l'amour de l'homme pour Dieu. Là, je me suis posé aussi des questions. Peut-être que vous êtes en train de prendre des notes, mais je parle parfois rapidement. Mais je me suis posé aussi des questions. Dans notre monde moderne, à Raleigh, au Canada, donc aux États-Unis, au Canada, en Belgique, dans ce monde, dans le monde occidental, où nous vivons, et même ailleurs aujourd'hui, où la devise est, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites ici, là où je vis, c'est boulot, métro, dodo. Vous avez compris quelque chose? La vie se résume en boulot, métro, dodo. La vie se résume, n'est-ce pas, dans boulot, on se lève, il faut aller au boulot. Il faut entrer dans le métro, dans les grandes villes. Raleigh n'a pas de métro. Je ne sais pas.
Parce qu'il y a des voitures.
Il y a des voitures. Ok. Mais il y a des voitures aussi partout. Mais c'est devenu, à Paris, c'est métro. Donc, boulot, métro, dodo. Donc, job, voiture, dodo. Vous voyez un peu. Et parfois, on ne se rencontre même pas. Parce que quand la femme arrive, le mari est en train de partir. C'est une réalité. Ce sont des réalités. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'amour dans un contexte pareil? Dans un contexte où les enfants, quand ils viennent à la maison, nous ne sommes pas là. Papa est parti, maman est partie. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'amour? Alors, nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 1 à 11. Et je commence, peut-être que je vais terminer un peu tard, mais si vous voyez que le temps est là, vous pouvez m'arrêter et faire signe. Nous lisons Romains chapitre 5, verset 1 à 11. C'est-à-dire que je ne vais pas suivre, n'est-ce pas, tout ce que j'écris qui sont sur mon ordinateur. Je fais la synthèse de ce que je devrais faire. Parce que, comme un vieux routinier, je suis habitué à l'humour de Dieu. Et parfois, quand Dieu me fait ça, quand je réfléchis, je dis, ah, il a bien fait. Parce que si j'étais là, j'aurais peut-être bombardé les gens avec beaucoup de choses. Mais il m'a donné d'abord le temps de faire un peu de recul pour dire, écoute, regarde un peu. Vous voyez un peu ça. Donc, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains chapitre 5? Non, je vais lire parce que j'ai le micro. Romains 5, versets 1 à 11. Étant donc justifié par la foi,
je peux lire pour vous, que ça vous permet
de vous. Merci beaucoup. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance est une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Merci beaucoup, frères et sœurs. Donc nous voyons, n'est-ce pas, si nous regardons très bien ici, pour que nous comprenions l'amour que l'homme doit avoir vis-à-vis de Dieu, il faut que nous comprenions d'abord qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que mon frère a fait hier, mais ici j'aimerais reprendre quelques éléments aussi ajoutés, parce que nous sommes en train de construire un édifice. Il a commencé et je viens bâtir en ajoutant. Donc on voit ici d'abord que Dieu, les caractéristiques de Dieu, il est amour. Comment cela se manifeste, cet amour? Dieu se donne. Donc Dieu a fait don. Dieu nous fait don. Il nous fait don de quoi? Il nous fait don de son Fils qui est mort alors que nous étions pécheurs. Nous étions sans espérance. Nous étions ennemis de Dieu. Mais par son amour dont mon frère Joseph a parlé hier, Dieu, n'est-ce pas, nous a sauvés.
Amen.
Dieu nous a fait don. Le don de vie. Le don de son Fils Jésus-Christ. La vie, nous l'avons en son fils Jésus. Donc Dieu se donne. Dieu se livre. Dieu se fait homme pour être comme nous, en vue de nous sauver. Le Dieu qui est créateur, le Dieu qui est à l'auteur et à l'origine de toutes choses, il se fait homme. Il vient habiter avec nous. Il prend notre condition. Il prend ta condition, la condition humaine, pour nous donner la vie. Dieu nous a fait don. La vie, c'est un don de la part de Dieu. Ce que nous sommes, nous l'avons grâce à Dieu, à son amour. Nous voyons l'amour de Dieu dans le fait qu'il s'est donné, il s'est livré, en devenant comme homme, en prenant la chair humaine. Est-ce qu'il avait besoin de faire cela? Mais c'est parce qu'il nous a aimés, cela a motivé. On voit bien concrètement que Dieu n'est pas quelqu'un qui part dans l'air. C'est quelqu'un qui a fait des actions qui sont visibles aujourd'hui, qui ont des conséquences aujourd'hui. Parce que son fils a quitté son trône éternel pour venir jusqu'ici où nous sommes, pour vivre dans ce monde et enfin pour donner sa propre vie. On voit donc Dieu nous fait don. L'amour de Dieu est manifeste en ce qu'il a donné son fils unique. Mais ce n'est pas tout. Nous connaissons que dans Jean 3, 16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Croire en Jésus, on a la vie éternelle. Est-ce qu'on achète la vie éternelle? Est-ce que vous avez les marchés à râler, les super ou hypermarchés où l'on peut aller acheter la vie éternelle? Où c'est affiché quelque part? Ici, on achète la vie éternelle. Il n'y en a pas. Si c'était comme ça, vous et moi, nous n'aurions pas mérité la vie éternelle. Nous n'aurions même pas eu accès à la vie éternelle. Parce que le riche, ce serait accaparé de ça. Et voilà que la vie éternelle est un don gratuit. Amen. C'est pourquoi on dit Dieu est amour. Et c'est pourquoi nous pouvons voir ce que nous disons, la grâce de Dieu. La grâce, c'est un don. Il n'est pas mérité. On ne mérite pas un don. Vous voyez un peu ça? Et je vais vous donner des exemples. Est-ce que la vie que nous avons aujourd'hui, nous l'avons mérité?
Non.
Nous sommes partis dormir hier. Même tard. Et ce matin, nous sommes réveillés. Vous aviez vraiment. Vous pensez vraiment que vous allez vous réveiller ce matin?
Non.
Moi, j'ai dit à mes enfants, écoutez, je suis parti dormir. Et les enfants disent, papa, amen, amen. J'ai dit, s'il vous plaît, t'as Dieu. Il dit, mais non, papa, c'est amen. Mais pourquoi? J'ai dit, mais c'est une expression. Vous voyez que c'est toujours une façon de réveiller l'intention, de réveiller quelque part, hein, une façon, parce qu'on n'évangélise pas seulement en citant le verset biblique, mais par le langage aussi. Donc la vie est un don de Dieu. Parce que j'ai vu ça. Je me suis rendu compte de cela. Je crois que je suis dans la salle ici. Je dois vous parler que j'ai mon gendre là-bas, n'est-ce pas? Mais il connaît un jour. Il sait un jour dans notre vie. Nous étions une famille rassemblée. Je venais de terminer des études de théologie. Nous étions reçus chez ma belle-sœur. nous étions bien là. On était bien, on s'est retrouvés à midi, on mangeait, et puis le soir, nous avions nos expressions, n'est-ce pas, pour parler de manger. Nous avions son beau-père qui était là, en bonne santé, mais un après-midi, je me souviendrai toujours, quelqu'un vient avec ses chaussures et des lunettes, on prend ça, ses lunettes, pour nous dire, écoutez, il a fait des malaises. Et c'était fini. Mmh. Vous comprenez un peu ça? Mmh. Alors, que c'était quelqu'un qui aimait vraiment Dieu. Mmh. Bon, pendant comme on dit à Bigala, mmh. Dieu l'avait visité dans les Canadiens, hein, mais Dieu l'a visité en Afrique. Hein. Ouais. Il aimait Dieu, il méditait. Quand Dieu l'a visité, il méditait la parole de Dieu. Il lisait beaucoup et discutait aussi, il causait beaucoup avec moi. Je voyais qu'il était un homme cultivé et puis qui connaissait aussi la parole de Dieu. Et il donnait aussi, il contribuait. Mais vraiment, vous comprenez, c'est quelque chose qui m'a... J'ai toujours réfléchi ce jour-là parce que je venais avec beaucoup de projets. Mais voilà que à peine arrivé, à peine un mois, je crois que nous sommes arrivés, et voilà, il est parti. Il avait lu mon mémoire, il me disait, ça, il faut publier. Mm. Il faut que ça reste dans la bibliothèque. Mm. Vous voyez un peu ça? Quelqu'un qui m'encourageait. Je pouvais compter sur lui. Et, bref, c'est quelqu'un qui m'aimait aussi, il m'a montré même son amour. Je ne veux pas parler, je ne veux pas tout dire ici. Mais on continue. Oui, il y aurait des moments peut-être où je pourrais dire ça. Si ma femme était là, j'aurais dit. Mais elle n'est pas là, je l'étais. Alors, c'est pour dire que quand nous nous levons, nous devons dire merci au Seigneur.
Amen.
Boulot, métro, dodo ne doit pas passer avant. Vous voyez, est-ce que vous avez discerné déjà l'amour de Dieu? Comment est-ce que l'homme peut rendre... L'homme peut témoigner son amour envers Dieu dans ce que je viens de dire là. Dire merci à Dieu, c'est déjà une action. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit parler, mais qu'on doit faire. Mais il y a des moments où nous ne le faisons pas. J'avoue que sous la pression de la vie, des fois on prend, on se lève, merci Seigneur, et puis on prend sa voiture, fou, on est parti. N'est-ce pas? Mais comment est-ce que nous pouvons dire que nous aimons Dieu? Je vais y revenir. Dieu a fait don de la vie. Dieu nous a témoigné son amour en se donnant, en se livrant. C'est ce que nous avons appelé la grâce. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Nous voyons l'amour de Dieu dans ce que non seulement il nous a donné Jésus-Christ, mais il nous a aussi donné le Saint-Esprit. Dans les textes que nous avons vus ici, que nous avons lus, on voit aussi cet élément-là. Le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Jésus est un don de Dieu. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. Bref, Dieu s'est donné lui-même. N'est-ce pas? Mais Dieu nous a fait don aussi de charismes ou de dons spirituels. C'est aussi un don de la part de Dieu. Parce que quand nous parlons de la grâce, on voit seulement Jésus qui est mort. C'est vrai, c'est le central, c'est la chose centrale, c'est la célébration centrale. Mais nous pouvons voir quelles sont les conséquences de cela. Dieu a répandu sur nous, n'est-ce pas, les dons. Et Dieu n'a pas seulement répandu sur nous des dons, Dieu nous a fait aussi don de l'amour. C'est ça que nous lisons dans le texte que nous venons de lire. Ce que nous avons lu dans le texte que nous venons de voir ici. Pourquoi? Parce que Dieu, en nous donnant Jésus-Christ, il a mis aussi dans nos cœurs son amour. Donc l'amour que nous avons en nous, l'amour qui nous aide à nous tourner vers Dieu et vers les autres, c'est un don de Dieu.
Amen.
Nous ne devions pas cacher cela. Nous ne devions pas priver les autres ou priver Dieu de cet amour que lui-même a mis dans nos cœurs par la foi en Jésus-Christ. Mes frères, si nous lisons, regardez Romains 7, je vous ai dit que je vais faire avec vous comme les ligueurs, non? Regardons ce qu'il dit. Romains 7, verset 5. Il dit, or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. On voit ça. L'amour est répandu dans nos cœurs. S'il est répandu dans nos cœurs, qu'est-ce que nous devions faire? Comment est-ce que nous devions agir? Est-ce que si nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs, c'est Dieu qui a répandu cet amour dans nos cœurs, est-ce que nous devions rester statiques? Non. L'amour de Dieu doit nous pousser. Il devient comme une dynamite. L'amour de Dieu devient comme les dynamos. Je me rappelle qu'il y avait des vélos, où il y a encore des vélos, on mettait des dynamos. N'est-ce pas? On pédale et les dynamos produisent de l'électricité, la lumière. Donc, si on a l'amour de Dieu dans nos cœurs, on doit répandre cet amour autour de soi. Et les autres n'auront pas à se poser des questions. Parce que quand vous êtes là, ils voient l'amour de Dieu au travers de votre être, au travers de votre vie, au travers de votre marche, au travers de votre de ce que vous faites. Les gens sentiront cet amour de Dieu. Et moi, je sens cet amour de Dieu lorsque certains serviteurs sont en train de parler, même quand ils prêchent, même quand ils administrent, quand ils dirigent les études publiques, je sens un peu, je sens qu'il y a l'amour de Dieu. Vous voyez ça? On ne sent pas que c'est quelqu'un qui domine. Ce n'est pas quelqu'un qui veut paraître. L'amour de Dieu est manifeste dans nos vies par notre humilité. L'humilité, ce n'est pas un faux semblant. Parce qu'il y a des gens qui font de faux semblants, mais qui ne sont pas humbles. Il suffit seulement de les piétiner. Donc vous allez comprendre de quel point ils se chauffent. Donc, l'amour, Dieu nous a donné Jésus, mais Dieu nous a donné aussi son amour. Personne ne peut dire, un chrétien ne peut pas dire que je n'ai pas l'amour. Un chrétien ne peut pas dire, nous avons suivi hier l'amour des ennemis. Un chrétien ne peut pas dire que je n'ai pas l'amour. Parce que si vous dites ça, c'est que vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas chrétien. Mais quand on est chrétien, on a de l'amour.
Amen.
Mais il faut exercer. Il faut manifester cet amour. Et c'est alors seulement que vous pouvez pardonner comme mon frère nous a montré hier. Alors, Dieu a donné l'amour à nous. Par quel moyen? Quel est l'agent de l'amour à nous? Le frère de Fibès, la soeur de Fibès. Par le Saint-Esprit. Donc, si nous voulons manifester pour que l'amour inspire toutes nos actions, il faut que cette autre personne soit dans nos vies. Il faut que cette autre personne, qui est le Saint-Esprit, soit réellement dans nos vies. Et c'est là parfois que je suis un peu d'accord, je suis d'accord avec le frère pentecôtiste, qui met beaucoup d'accent sur le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas dans nos vies, nous sommes foutus. Nous sommes bons à rien. Parce que nous serons comme des tonneaux vides. Comme Paul dit. Le tonneau qui résonne. Mais qui ne fait rien. Dieu a mis l'amour dans nos cœurs. Dieu a mis des dons en nous. Pour que nous puissions les garder. Que l'amour inspire toutes vos actions. Je vais revenir à toutes les actions. Alors, on voit ici que l'homme, Dieu a mis l'amour en nous pour que nous puissions, en retour, lui obéir, pour que nous puissions en retour faire ce qu'il nous demande de faire. Nous ne pouvons pas, l'amour de Dieu ne peut pas inspirer nos actions si nous mettons de côté le Saint-Esprit. Si nous ne voulons pas obéir à ce que le Saint-Esprit nous dit, ce n'est pas possible. Quelle action nous allons mener qui sera teintée de l'amour de Dieu si lui-même, Dieu, ne nous pousse pas à le faire? Si lui-même Dieu ne nous conduit pas, quand je dis ne nous pousse pas, c'est qu'il ne nous conduit pas, si nous ne lui sommes pas obéissants. Sinon, ce que nous ferons, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, battu vie. Alors, mais j'aimerais avancer, progresser dans ce texte-là. Je reviendrai sur ce texte de Romains 5, hein, quand je parlerai de l'amour dans le foyer. Mais nous continuons ici. Je reste dans le livre de Romains. Je vais lire Romains, ouvrez un peu vos Bibles, le chapitre suivant, Romains 6. Si je donne ce texte-là, c'est pour que vous puissiez aller ensemble encore et continuer, hein, pour découvrir notre thème. Parce que vous dites que dans toutes les épîtres de Paul, il parle de l'amour vraiment. Alors regardons Romains 6, je vais lire un peu le verset 17 et suivant. Regardez, verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Romains 6, verset 17. Voilà ce qu'il dit. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Vous voyez? Que l'amour de Dieu inspire toutes vos actions. Nous avons été esclaves. Mais quand Dieu a mis son amour à nous, nous sommes devenus des hommes et des femmes libres, pas de prostituées, mais libérées par Dieu. Parce que quand on dit femme libre, ça a une mauvaise connotation en français. N'est-ce pas? Nous avons été libérés. Dieu nous a donné, nous sommes devenus des hommes et des femmes libérés, donc libérés du péché, libérés de tout ce qui est esclavage de l'ennemi. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons obéir. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Vous voyez? Donc, l'amour de Dieu doit nous amener à l'obéissance, mais doit nous aider à comprendre les Écritures, à persévérer dans les Écritures qu'on nous enseigne tous les jours. En tant que chrétien, il n'y a pas d'autre manière, 36 manières, comme le français dit, il n'y a pas 36 manières par lesquelles on peut montrer que nos actions sont teintées de l'amour. Alors, mes frères et mes sœurs, quand nous continuons, je progresse toujours avec le Romain, chapitre 6. Regardez le verset 18. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Vous voyez le domaine, les actions que nous devons mener, qui doivent montrer que nous avons cet amour. Donc, l'amour que nous avons pour Dieu doit se manifester ici et maintenant par ce que nous faisons. Est-ce que nous rendons justice? Est-ce que nous sommes justes? Est-ce que dans nos actions, est-ce que nous sommes justes? Est-ce que nous pouvons rendre vraiment justice? Est-ce que nous reconnaissons que nous avons été libérés du péché? Et je voudrais, pour l'amour de Dieu, l'amour de l'homme pour Dieu, j'aimerais vous parler des quatre piliers. Je crois que vous connaissez ça. Lecteur de la Bible, vous connaissez ce que Acte chapitre combien tu parles de piliers? Acte 2, 42. Disons un peu, c'est le domaine où cet amour que nous avons pour Dieu doit se manifester. Donc, j'ai voulu comme je vous ai dit que j'ai essayé de faire un peu la synthèse de beaucoup de choses que j'ai écrites là-bas. S'il y a lieu, quand je retournerai, je les mets bien en ordre, je vous balance comme un petit document. Alors, regardons. Mais je suis parti plus vite là. Je voulais d'abord rester dans Romains 6, Romains 8. Alors, c'est ce que j'ai dit. Je voulais d'abord lire Romains 8, s'il vous plaît. S'il vous plaît, excusez-moi. Vous allez continuer. Romains 8. Je crois que vous connaissez ce passage. Ce que je dis ici n'est pas neuf. Mais c'est pour nous rappeler tout simplement. Je suis comme le pilote, n'est-ce pas? Mais vous pouvez faire d'autres choses. Regardons un peu ce qu'il dit. Je ne sais pas, peut-être que vous l'avez déjà lu avec mon frère aussi. Je commence avec le verset 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Vous voyez un peu? Ici, on voit que l'amour de Dieu doit nous inciter à être des témoins de Jésus-Christ, à être des disciples à plein temps. Ce n'est pas seulement quelques temps, mais c'est chaque jour, à chaque heure. Et les apôtres de Jésus-Christ ont montré qu'ils étaient, n'est-ce pas, qu'ils avaient l'amour de Dieu en témoignant. Vous connaissez Étienne. Quel était son sort? Étienne a vécu comme ça et puis il est mort de la mort naturelle. Non. Vous connaissez comment, de quelle mort il est mort, non? Il a été lapidé. N'est-ce pas? Saul de Tarse, Paul que vous connaissez, qui voulait montrer qu'il aimait Dieu après avoir été esclave et libéré. Maintenant, il a voulu montrer qu'il aimait Dieu. Vous connaissez quel était son sort? Comment il a fini? À Rome, en prison. N'est-ce pas? On parle de Pierre comme le premier pape. Mais s'il y avait des papes qu'il fallait nommer, c'était Paul. On ne devait pas dire, moi, c'est le siège de Saint-Pierre. Non, hein? Ça pouvait être peut-être le siège de Saint-Paul. C'est lui qui a été là-bas. Pierre n'a pas été à Rome. En tout cas, on ne voit pas. On n'a pas de suffisant pour dire que Pierre est Paul à Rome, non. Mais Paul, probablement. Et voilà comment il dit. On peut voir dans l'histoire de l'Église des gens qui aimaient Dieu. On les a amenés dans les arènes, donc dans les stades où il y avait des lions. On a lâché des lions pour voir comment est-ce que Dieu viendrait les sauver. Il y avait même une jeune fille, j'ai oublié le nom, Blandine, je crois, dans l'histoire de l'Église. Elle a accepté courageusement, elle n'a pas voulu renier Jésus. Elle a dit non, qu'est-ce que mon maître a fait? Pourquoi est-ce que je le renierais? Lui qui a donné sa propre vie pour moi, elle a accepté, elle est morte courageusement, déchirée par des lions. Oui, il n'y a pas que d'hommes qui sont morts pour le Christ, qui ont été tués pour le Christ, mais il y a aussi des femmes. Mes frères et mes sœurs, c'est là qu'on peut voir l'amour de l'homme pour Dieu. Alors, quand on regarde, donc je vous laisse le texte là, vous le connaissez. Je n'ai pas, il est clair, je n'ai pas le commenter. Mais nous voyons qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que libéré, sauvé du péché et de la mort, nous sommes là pour servir notre maître, pour servir celui qui nous a aimé le premier, celui qui est mort pour nous. Et quand nous observons, comme je vous ai dit, voyons les domaines pour être pratiques. Quels sont les domaines où nous pouvons dire que nous avons l'amour, que nos actions sont inspirées par l'amour. Donc, ce que l'amour nous emploie à cet amour pour Dieu. J'en vois ici 4. J'ai déjà donné d'autres. Mais la première chose, quand nous lisons Actes chapitre 2, verset 42, quelqu'un peut-il venir lire Actes 2, 42. S'il y a quelqu'un qui veut lire, il peut lire. Hein? Ok. On se partage la tâche. Hein? Mm-hmm. On pouvait commencer avec 41. 41, 42, 43.
Actes chapitre 2, à partir du verset 42.
41.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés.
Merci beaucoup, frère. Okay. Donc, nous voyons Acte 2, verset 41. Vous pouvez lire jusqu'au verset 44. Donc ici, on voit que celui qui veut dire qu'il aime Dieu, qu'il a un amour pour Dieu, la première chose, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit persévérer dans les enseignements. Ici, on dit les enseignements des apôtres. Ici, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons à notre disposition? Nous avons les 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est dans ces livres ici que nous devons puiser la matière qui doit diriger nos vies. La matière qui doit enrichir, si vous voulez bien, mieux, nourrir notre foi pour que nous restions attachés à Dieu. Pour que nous puissions montrer à Dieu que nous sommes ses enfants. Comment est-ce que nous pouvons vivre une vie sainte si nous ne lisons pas la parole de Dieu? Si nous ne nous nourrissons pas, si nous ne vivons pas ce que la parole de Dieu nous dit, nous pouvons beau avoir des Bibles avec nous, mais si nous ne vivons pas ce que la Bible nous enseigne, en tout cas, ça ne vaut pas la peine. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, est-ce que nous persévérons dans nos enseignements? Est-ce que nous aimons des enseignements? J'ai pensé que nous devions avoir une salle. Nous devions avoir une salle pleine. C'est gratuit. N'est-ce pas? Où sont les frères et les sœurs de râler? Si nous voulons persévérer, si nous aimons, comment est-ce que nous pouvons dire que nous aimons Dieu si nous ne étudions pas étudier la parole de Dieu? Vous voyez toutes les choses que nous sommes en train de faire ici. Mon frère vous a enseigné pendant ces deux jours qui viennent de passer. Je suis certain que même si vous connaissiez ce qu'il a dit, il y a des petits mots ici et là qui vous ont bousculé. Et même ce que je suis en train de dire ici, il y a des petits mots qui bousculent. Parce que quand maintenant nous sommes en train de partager, on revoit ces mots-là avec des lunettes nouvelles. Une nouvelle manière de voir, une manière de nouvelle de lire, une manière nouvelle d'être. Et nous sommes interpellés par tout ce que nous entendons pendant que nous sommes ensemble. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu si il n'aime pas sa parole. En tout cas, il n'y a pas 40 manières. Regardez l'autre élément qui peut montrer que nous avons l'amour de Dieu lorsque nous vivons la communion fraternelle. La communion fraternelle est importante. Ici, la communion, ce n'est pas seulement le fait de nous retrouver ici. Je sais que nous communions avec Fumès, à distance. Nous communions les uns les autres.
Amen.
Pendant que nous méditons, moi j'ai l'impression que nous sommes l'un à côté de l'autre.
Amen.
Oui. Mais nous sommes à distance, à des milliers de kilomètres. N'est-ce pas? Mais nous restons en communion. La communion spirituelle. Être en communion avec les autres, spirituellement. En partageant des sujets de prière. En priant le seul pour les autres. En s'encourageant. La vie chrétienne, nous avons besoin de nous encourager aussi. Ne croyez pas que les pasteurs n'ont pas besoin d'être encouragés. Vous qui n'êtes pas pasteur. Nous avons besoin d'encouragement. Ne croyez pas que les pasteurs doivent être seulement encouragés par les enfants. Non. Même les membres de l'Église, quand ils viennent chez le pasteur pour lui dire un petit mot d'encourager, pas seulement, il y a ceux qui viennent seulement pour « Oh, vous voyez, vous avez dit ça, vous avez fait ça. » C'est pas ça. Mais ça, c'est pas un encouragement. Ça, c'est le découragement. Mais quand vous partez, vous pouvez dire à votre pasteur, « Parce que vous savez aujourd'hui, pas pour flatter, hein, parce qu'il y a des flatteurs aussi. Moi, il y a des flatteurs qui font ça. Mais quand j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as compris? J'ai expérimenté ça lorsque j'étais à l'Ubiquim. Parce qu'il est dans un grand auditoire. Je prêche. Après, non? Aumônier, vraiment. C'était bien. J'ai dit, qu'est-ce qui était bien? Et des fois, je demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu. J'ai enseigné même pourquoi. Vous voyez comment ça vous dit toute autre chose. Mais c'était bien. Mais j'ai dit l'encouragement, c'est d'aller aussi vers le pasteur et dire, mais écoutez, cette parole-là est dure, mais elle était bonne pour vous. Elle était bonne pour moi. C'est l'encouragement. Vous voyez ça? Mais la communion pour nous, c'est superficielle. Pas de superficialité. Il faut vraiment une communion profonde. Quand je suis en communion avec un frère ou une soeur, je vais prier pour ce frère. Même si il ne me demande pas de prier pour lui. Mais je prie. Et après ça, c'est en communion aussi avec ce frère. Donc je voulais aller fraction du pain. Vous connaissez qu'il y a la Sainte Cène. Mais quand nous sommes ensemble, c'est ce qu'on mange pas ensemble. Hier soir, nous avons été quelque part, hein, la nuit. Nous avons mangé. Vous qui n'étiez pas là, vous avez raté. Mais nous qui étions là, qui sommes partis dans la nuit, nous avons mangé, nous sommes régalés et nous sommes revenus. Vous voyez le partage. Mais on peut partager aussi sa chemise, hein, avec le frère qui n'en a pas. Mais là, vous comprenez, c'est une autre dimension de l'amour que je veux aussi aborder. Alors, mais regardons ici. Prière. Je peux être interverti, ce n'est pas grave. Mais regardez, prière. Je voudrais que vous regardiez ce mot-là en tant que liqueur. Il est au singulier, au mieux au pluriel. Il est au pluriel. Mais pourquoi on n'a pas dit pas la prière seulement? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, mais regardez, dans les prières. C'est important. Pas seulement la louange. Vous savez, louer Dieu, c'est pas mauvais. J'aime que nous louions Dieu. J'aime que nous puissions adorer Dieu. Mais il y a d'autres aspects de prière. Et parfois, c'est la prière la plus difficile. Parce qu'ici, il y a l'intercession. Mais quand il faut demander à Dieu, oh, le panier peut se remplir. Mais quand il faut intercéder, vous avez dit intercéder, c'est demander. C'est quand même un peu différent. Parce que quand on demande, je demande à Dieu pour mes besoins. Mais quand on intercède, c'est pas seulement pour soi. Et d'ailleurs, c'est pas pour soi. Parce que quand Jésus intercède, il ne prie pas pour lui. Vous comprenez que ça? Amen. Jésus ne prie pas pour lui. Il prie pour ses frères et sœurs que nous sommes. Et quand on intercède, on prie pour ses frères et pour ses sœurs. Voyez un peu ça. Mais il y a des moments où nous, l'intercession pour nous, c'est moi-même. Seigneur, vraiment, élève-moi. Mais le Seigneur dit, élève d'abord toi-même ton frère qui est à côté de toi. C'est bien. Mais je voulais montrer qu'il y a l'intercession. J'avais choisi une figure dans l'Ancien Testament, mais je vais m'arrêter. Je ne vais pas. Je crois que vous connaissez le texte. Je connais quelqu'un dans l'Ancien Testament, parce que j'ai parlé beaucoup du Nouveau Testament ici. Hein. Si vous avez regardé ce matin, je n'ai pas regardé le Nouveau Testament. Mais si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez voir quelqu'un qui a montré concrètement son amour envers Dieu. Je vais parler un peu de David. Mm-hmm. Vous connaissez cet homme-là, non? Oui. Un homme qui était pécheur, qui avait péché aussi, mais qui avait reconnu son péché, qui s'est repenti, le Seigneur l'a élevé. Mais cet homme, un jour, quelqu'un voulait lui donner quelque chose pour qu'il puisse offrir à Dieu. Vous savez ce qu'il a dit? Non, je ne vais pas offrir à Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Est-ce que vous comprenez ça? Je crois que c'est un exemple. Je ne suis pas venu pour vous bourrer de toutes les choses, mais pour parler concrètement de cet amour. Je vous ai dit que toute l'année, ça, depuis que j'ai eu le message, je ne sais pas combien de fois j'ai prêché dans mon église sur l'amour, que l'amour inspire toutes vos actions. Mais je vois ici concrètement ce que David a fait. Il a dit non, je n'offrirai pas mon Seigneur des choses qui ne me coûtent pas, qui ne me coûtent rien. Non. Je vais offrir à mon Seigneur. Il a offert ce que lui avait. Lui. Mais qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Qu'est-ce qui peut nous montrer que nous aimons Dieu? Et je vais encore terminer avec l'épître aux Romains. Romains chapitre 12, vous connaissez, non? Ah, voilà. Dieu veut que nous puissions nous offrir d'abord nous-mêmes. Pas que nous puissions offrir nos maris. Pas que nous puissions offrir nos enfants. Pas que nous puissions lui offrir nos richesses. Pas que nous puissions lui offrir je ne sais quoi. Mais Dieu veut une relation particulière avec chacun de nous. Et Dieu veut que chacun de nous puisse d'abord souffrir lui-même comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et cela sera un culte. Donc le culte selon Dieu, c'est d'abord de nous offrir nous-mêmes. Si nous voulons montrer, si l'amour inspire nos actions, si quel est l'amour que je peux avoir pour Dieu, Dieu est content que Dieu s'offre d'abord lui-même à Dieu Quand je m'offre à Dieu, c'est pas seulement quand j'ai donné ma vie à Dieu, mais c'est dans toute ma vie, dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je veux être, que j'appartienne au Seigneur. Moi, j'ai fait le catéchisme. Dans le catéchisme d'Heidelberg, c'est le catéchisme calviniste, n'est-ce pas? Il est dit ceci. Quelle est ton unique espérance dans la vie comme dans la mort? Et la réponse, vous savez, elle n'est pas difficile. Dans la vie comme dans la mort, c'est d'être au Seigneur. Voyez un peu ça, même. Quelle est ton unique espérance? C'est ça le problème là aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que disciple, vous savez, quand je dis que vous vous offrez vous-même, je n'exclus pas d'autres dimensions d'abandonner nos enfants, nos biens à Dieu. Mais Dieu veut d'abord vous-même. Donc, dans toutes vos actions, quand vous vous levez vous-même, parce qu'il y a des moments où nous nous rejetons de bas, hein, vous avez besoin de cela. Le Seigneur veut, toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Nous avons besoin de nous abandonner à Dieu. De dire à Dieu, Seigneur, regarde-moi. Seigneur, je veux te donner. N'est-ce pas? On parle de don ici. Mais le Seigneur veut que tu puisses dire, je vais t'honorer comme ça. Dans mon église, je veux faire telle chose. Je veux rester fidèle. Donne-moi, Seigneur, la force nécessaire pour que je fasse cela, que je demeure fidèle dans ce que je fais, dans mes activités, que je demeure fidèle. Le Seigneur a besoin de cela. Et c'est en demeurant fidèle que le Seigneur se glorifie. Amen. Et quand le Seigneur se glorifie, il verse sur vous ses abondantes bénédictions. Et là aussi, les bénédictions, ce n'est pas seulement de l'argent. Quand je dors paisiblement, c'est une bénédiction. N'est-ce pas? Mais parfois nous oublions ces aspects. On pense que la bénédiction, c'est rouler carrosse. C'est pas seulement ça. Ça peut être que Dieu nous fait à son service. Je m'arrête là et nous continuerons à un autre moment. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que tu es bon. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es juste. Parce que tu es digne de louange. Tu sais, Seigneur, que tu nous as appelés de loin pour ton peuple ici. Tu connais les besoins particuliers de chacun de nous. Et tu sais pourquoi tu m'as aussi fait déplacer. Tes enfants, ce sont des pensées pour que j'arrive jusqu'ici. Ma prière est que toi seul maintenant, par ton Esprit Saint, tu parles au cœur de chacun de nous. Tu agisses pour que toi seul, Seigneur, tu sois celui que nous glorifions. Celui par qui nous faisons, nous posons des gestes d'amour, des gestes qui traduisent ta présence dans nos vies, mais juste qu'ils traduisent que nous sommes des frères et sœurs de Jésus-Christ, que nous t'aimons. Amen.
Bien-aimés, acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Merci, merci beaucoup. Bien-aimés, c'est...